Chers auditeurs, auditrices de Radio Capi, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de la Tribune de la Presse que j'ai l'immense plaisir de la présenter avec des confrères journalistes. Au cours de ce magazine, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité pendant cette semaine. Et pour ce soir, deux thèmes sont au menu de notre débat, à savoir la publication du communiqué conjoint du gouvernement congolais et les M23 sur le cessez-le-feu et les dialogues à Doha, et les poursuites judiciaires contre le sénateur à vie Joseph Kabila, ainsi que la suspension des activités de son parti politique, le PPRD, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pour en parler, nous recevons dans cette émission Jack Fouraïcha. Il est directeur général de la radio Ndenga FM, un organe de presse basé à Kalemi. Nous sommes là dans la province de Tanganyika. Bonsoir, cher collègue Jack, et bienvenue dans ce numéro.
Bonsoir Tati, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Capi, bonsoir à tous les compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo.
Je me tourne vers vous, cher consoeur Magui Libé-Bélé, vous êtes manager du média en ligne, paramètre RDC, directrice provinciale de l'Union congolaise des femmes des médias, Icofem Tchopo. Bonsoir et bienvenue dans ces rendez-vous de la Tribune de la Presse.
Bonsoir Tati Mapoukou, bonsoir à mon co-débatteur et bonsoir aux auditeurs de la Radio Capi.
Ici au studio, nous recevons notre collègue Serge Yannick Ntombolo. Il est journaliste au desk politique du média en ligne, élections-net.com, qui fait également partie du panel de cette émission. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous, chers collègues.
Bonjour, merci beaucoup, cher Tati, pour l'invitation et bonjour à tous mes co-débatteurs et aussi aux auditeurs et auditrices de la Radio Capi.
Voilà, Tati Mapoukou, c'est moi qui présente cette Tribune de la Presse. Kéline Koute coordonne ces numéros sous la supervision de Martin Sebujangwe et Debs Vita s'occupe pour sa part de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de cette Tribune de Presse.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal Plus au canal 572 pour Radio Capi et au canal 573 pour Radio Capi Enfant. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. À Matadi, au Congo central, vous nous suivez sur la fréquence modulée 102.0. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous joindre, de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine hebdomadaire, la Tribune de la Presse. Comme à l'accoutumée, vous avez chacun de vous une ou deux minutes pour commenter un fait d'actualité qui a captivé votre attention durant cette semaine et qui est en train de finir en dehors des thèmes principaux choisis que nous allons développer ensemble. On va commencer par vous, Jack Fouraïcha. Nous rappelons que vous êtes directeur général de la radio Ndenga FM, un organe de presse basé à Kalemi. Nous sommes là dans le Tanganyika. Quelle est la nouvelle qui vous a particulièrement accroché cette semaine, chers collègues?
Oui, merci beaucoup Tati. Je tenais aussi à saluer les co-débatteurs d'aujourd'hui. En fait, l'actualité qui m'a frappé, comme vous le savez, je suis d'une radio communautaire, Tati, et mes sentiments ont toujours été vers la communauté qui souffre. Alors, c'est cette information des inondations du village Kalengele, à Rugumba, ici, à Kalemi, c'est à 25 kilomètres de la ville de Kalemi, où tout un village et sous les eaux de la rivière Rugumba, et tous les habitants ont quitté pour trouver refuge ailleurs. Donc c'est vraiment déplorable. Quand on y arrive, on ne fait que pleurer. Donc on ne fait que pleurer, et on vient aussi d'apprendre qu'il y a un autre village à Tembwe, c'est à 80 km de Kalemi, sur le lac Tanganyika, où les eaux ont envahi des villages, et les habitants sont en grande majorité à la Belle Étoile. Donc ça fait mal, et nous alertons toujours le gouvernement à prendre des dispositions afin de venir en aide à cette population qui ne cesse de souffrir tous les jours. Voilà un peu l'actualité, moi, qui me touche. Quand je suis arrivé à Rugumba Kaingele, à la nommée de David de Kalemi, ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, est-ce que le gouvernement a fait vraiment songer à cette population qui souffrent dans ces villages ici. Voilà l'actualité qui m'a touché cette semaine.
Et la population sinistrée localement n'a pas bénéficié d'une assistance? Il n'y a pas un appui de la part du gouvernement provincial?
Jusque-là, aucun appui de la part du gouvernement provincial. À part cette population victime des inondations, il y a aussi les déplacés internes qui sont venus de Bukavu, Goma, Uvira, qui sont dans les écoles, dans le village d'Angulo, à 5 km encore de la ville de Kalemi, et qui sont sans assistance. Les enfants meurent de la famine. Donc, franchement, quand vous y arrivez, vous avez l'air de pleurer. Hein, vous avez l'air de pleurer. Ils n'ont absolument rien. Il y a des enfants qui sont sans abri. Donc, c'est une situation déplorable. Ils sont là, sans assistance, je dis bien. Ni des humanitaires du gouvernement provincial. C'est une alerte que nous lançons. Et on a déjà fait à la radio et on espère que ça trouvera vraiment une solution pour cette population. Donc nos auditeurs, nous, radio communautaire, quoi.
Merci beaucoup, chers collègues, pour ces cris d'alarme. Hein. Je me tourne vers vous, notre consoeur Magui Libébélé. Nous rappelons que vous êtes les managers du média en ligne Paramètres RDC, directrice provinciale de l'Union congolaise des femmes des médias, de l'Union congolaise des femmes des médias Ikofem Tchopo. Dites-nous, quelle est la nouvelle qui a personnellement retenu votre attention cette semaine qui est en train de finir dans la Tchopo?
L'actualité qui a attiré mon attention, c'est la mort de plus de 10 personnes, dont la majorité les femmes, au petit marché appelé communément ici marché de Balese, précisément dans la commune de Mangobo, à l'ouest de la ville de Kisangani. Et ces femmes ont connu la mort suite à une foudre qui s'est abattue sur la ville de Kisangani, et ces femmes-là ont trouvé la mort. Voilà, c'est cette information-là qui a captivé mon attention parce que ça donnait la peur et les gens se posaient beaucoup de questions, qu'est-ce qu'elles ont fait, et etc. Et voilà l'actualité qui a vraiment captivé mon attention cette semaine.
Merci beaucoup, cher conseiller Magui Libébélé. Nous rappelons que vous êtes les managers du média en ligne Paramètres RDC, directrice provinciale de l'Union congolaise des femmes des médias Ikofem Tchopo. Une sous-question me traverse l'esprit. Dites-moi, la foudre s'est abattue au terme d'une pluie ou c'était à l'occasion de rien?
C'était au terme d'une, donc au cours même de la pluie, quoi. C'est une pluie qui s'est abattue sur la ville de Kisangani. Donc c'était au cours de la pluie que la foudre s'est abattue sur la ville. Et curieusement, on a ramassé des morts là-bas, dans le petit marché de Balese à Mangobo.
On vous garde en ligne, nous rappelons que vous êtes manager du média en ligne Paramètres RDC, directrice provinciale de l'Union congolaise des femmes des médias Ikofem Tchopo. Je me tourne vers vous ici au studio, Serge Yannick Ntombolo. Nous rappelons que vous êtes journaliste au desk politique du média en ligne election-net.com. Dites-nous, quelle est la nouvelle qui vous a captivé, qui a retenu votre attention personnellement à Kinshasa au cours de cette semaine qui est en train de finir?
Merci bien, cher Tati. Vous savez, ici à Kinshasa, nous sommes en train de vivre peut-être ce que moi je pourrais appeler un fiasco. Un fiasco, c'est-à-dire, vous savez que non, il y a eu la pluie qui s'est abattue, je crois,
le 4 et le 5 janvier.
Il y a eu des inondations, il y a eu des cas de mort.
Exactement.
Ce qui est grave et que non, maintenant, il fallait maintenant savoir. Maintenant, les gens qui ont été hébergés,
délocalisés, donc, déplacés
de leurs lieux habituels pour être délocalisés vers le stade Tata Raphaël. Maintenant, il fallait passer par là et voir maintenant qu'est-ce qui se passe réellement. Donc moi, je crois que non, le gouvernement a un petit temps de communiquer, de mieux communiquer, d'organiser aussi même quelques conférences sur ces sujets-là. L'élection net est allée sur terrain.
D'accord.
Je suis précisément, je crois, vers quartier Ndanou, où nous avons eu à assister, à interviewer quelques sinistrés-là. Un fait anodin, il y a un propriétaire d'une parcelle qui me dit non, moi chez moi je n'ai jamais été victime d'une inondation, mais curieusement, tous mes locataires ont fui, ils sont pour l'instant là, au stade Tata Raphaël. Je dis mais comment est-ce possible? Il dit non, apparemment c'est comme s'ils ne voulaient pas payer le loyer et ils ont profité de l'occasion, comme le gouvernement a donné cette option-là, de prendre en charge quelques sinistrés. Mmh. Alors, ils se sont infiltrés, exfiltrés là-dedans pour être maintenant là, pour l'instant, au site de Tarfael, se présenter comme étant des sinistrés.
Alors qu'ils ne le sont pas.
Ils ne le sont pas. Nous avons fait notre démarche pour avoir maintenant les coordonnateurs d'un des sites. Je ne vais pas le citer ici. Il me dit non, il y a une équipe qui s'est engagée, nous avons mieux identifié les sinistrés. Mmh. Et à l'instant là, je dis, il y a les gens qui sont ici. Mais est-ce qu'il y a une équipe de secours qui essaie un peu de faire le suivi pour savoir que non, les gens qui sont ici...
Qui sont les vraies victimes et qui ne le sont pas.
Même pas cette question-là. Maintenant, est-ce qu'il y a une équipe pour voir réellement que non, leurs réhabilitations, ou soit leurs habitations, pardon, ont été soit déménagées ou soit réaménagées, je ne sais pas. Ils sont là, vous les prenez en charge, vous les nourrissez, vous les... donc presque tout, mais en conséquence, qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat? Il n'y a aucune équipe qui descend pour voir qu'il y a... pour combien de temps même ils vont y rester, pour combien de temps. C'est... maintenant, il faut aussi savoir qui gère ces sites-là. Des fois, c'est l'hôtel de ville. Des fois, c'est
le ministère de la Santé.
Des fois, c'est le ministère de la Santé. Donc, il y a tout un service là pour que vous puissiez savoir et identifier. C'est tout à fait un problème. Et même aussi entrer là-dedans, et vous trouverez peut-être des familles là un peu heureuses, mais sans savoir qu'il y en a, ils vont quitter là quel jour. C'est un peu une situation un peu alarmante, puisque la gestion de cette histoire, moi je l'ai dit, le gouvernement doit jeter un coup d'œil là-dedans. Il y a des histoires qui se passent là, et je ne peux pas tout dire ici au micro, mais il y a les histoires qui se passent.
Vous étiez en Andanou, est-ce que de l'eau s'est retirée des ménages, ou il y a encore de l'eau, parce qu'on est au mois d'avril, il y aura encore des précipitations jusqu'au mi-juin.
Exactement. Là, bon, le jour où j'y étais, apparemment, c'est
mi-mai, pardon, du 15 mai.
Ouais, le jour où nous étions avec toute l'équipe d'électionnettes, les reporters d'électionnettes qui étaient là, l'eau était en train même de monter. L'eau était en train de monter, il y avait peut-être, je crois, je vais vous envoyer un lien. Il y a les habitants qui disent que non, dès lors jusqu'à présent, ils ont presque tout perdu. Même, ils croyaient peut-être que non, il pouvait y avoir peut-être l'assistance d'une manière que non, le gouvernement pouvait passer et voir que non, ah, qui est le propriétaire de cette parcelle? Il le prend en charge. Mais de la manière dont l'opération s'est passée, et jusqu'à présent, les gens ne comprennent absolument rien. L'eau continue toujours à monter. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne sais pas la situation, puisque là, on n'a pas encore fait les points complets là-dessus.
Merci à chacun de vous d'avoir décortiqué à chaud pour nos auditeurs l'actualité qui a retenu votre attention durant cette semaine qui est en train de finir. Chers collègues, le premier thème de ce soir concerne la publication du communiqué conjoint du gouvernement congolais et les M23 sur le cessez-le-feu et les dialogues à Doha, la capitale du Qatar, où les deux parties se sont convenues de travailler ensemble pour instaurer un cessez-le-feu effectif. Ils ont souligné l'importance d'un dialogue inclusif pour aborder les causes profondes du conflit et reconstruire la cohésion nationale. Et les deux parties, c'est-à-dire la partie gouvernementale et la partie de la rébellion du M23, se sont également engagées à respecter les promesses pour un dialogue constructif et durable. Comment analysez-vous? Comment analysez-vous cette actualité? Nous commençons par Jacques Fouraïcha. Nous rappelons que vous êtes directeur général de la radio Ndenga FM, un organe de presse basé à Kalemie. Nous sommes là dans les Tanganyika.
On a tous vu les deux communiqués. Je me pose des questions, moi, personnellement. Je me pose des questions. Quand j'ai vu les deux communiqués, l'entête, on écrit déclaration conjointe. Mais quand vous analysez la RDC, la partie gouvernementale, la partie de la République du Congo, a signé son communiqué et le M23
a signé, publié également son communiqué.
Publié son communiqué. Mais je me dis, en quoi ce communiqué est conjoint? Bon, on peut dire que ce communiqué est conjoint parce que les lignes, ce sont des mêmes lignes qu'on a fait, les lignes qui sont dans les communiqués du M23, c'est les mêmes lignes qui sont dans les communiqués de la RDC. Je me dis, mais en quoi on va appeler ça communiqué conjoint pendant que chaque partie a signé et son communiqué? On devrait comprendre si c'était un seul communiqué signé
par les deux parties.
Là, on devrait dire que c'est un communiqué conjoint et on peut espérer quelque chose de ce communiqué. Mais un communiqué signé séparément et on se glorifie dans les pays qu'on a c'est vers une solution pour tout ce que nous vivons aujourd'hui, à mon avis, Bon, à mon avis, ce qui est vrai, je ne suis pas du tout d'accord. Écoutez, Tati, la souveraineté nationale ne se négocie pas. La souveraineté nationale ne se négocie pas. Aujourd'hui, le peuple congolais subit ce qu'on n'a jamais, nous, à notre génération, ce qu'on n'a jamais connu. Le pays est aujourd'hui au bord du gouffre. Hein? Je peux le dire comme ça, je m'excuse les termes, les termes pèsent beaucoup. La misère s'amplifie chez les Congolais. On ira où avec les communiqués? On ira où? Parce que quand on a un communiqué conjoint qui va nous amener vers un dialogue, bien sûr que j'avais proposé, je me rappelle dans une émission, c'est au Capi, j'avais proposé un dialogue. Mais quand vous analysez la situation actuelle du peuple congolais, mais on s'est dit, on ira où avec tous ces dialogues? Parce que quand on dialogue, et après, on va aboutir à des accords. Mais on est d'accord, et pour quel intérêt?
Oui, mes chers collègues, ce qui est important, que les négociations ont commencé et que les deux parties ont signé un communiqué conjoint. On dit conjoint parce que bon, c'est vrai que les contenus de ces communiqués se recoupent et les deux parties se sont mis d'accord pour commencer enfin à dialoguer pour arriver à un cessez-le-feu et à une paix durable.
Tati, dans tous les dialogues, il y a toujours ce terme. Dialogue, on va trouver le dialogue pour une paix durable, mais quelques années après, 2 ans, 3 ans, c'est 4 ans, 5 ans, c'est le même rythme, c'est Goma, c'est l'Est qui subit les accords, la réalité ou les secrets des accords. Tati, hein, il faut arriver aujourd'hui à Uvira, il faut arriver au Burundi, voir la misère de nos compatriotes qui ont quitté le Congo vers le Burundi. Hein? La misère s'amplifie à un niveau qu'on ne saura pas identifier dans cette émission. L'insécurité gagne le terrain partout. L'insécurité gagne le terrain partout. La corruption, là, n'en parlons même pas. Même pas. Donc, moi, à mon avis, bien sûr que le dialogue, si on aime bien ce pays, si les deux parties, si du côté AFC M23, ce sont des compatriotes congolais qui aiment bien ce pays, moi je pense que on devrait aimer ce pays avec le cœur et dire non, il y a un peuple derrière nous qui souffre, il y a un peuple derrière nous qui a besoin d'une paix durable, il y a un peuple derrière nous qui a besoin de vivre le Congo et non vivre la misère à tout moment. Depuis qu'on est né, nous, à notre génération, ils sont des misères et des misères. On n'a jamais vécu 2 ans ou 3 ans d'une paix durable. On n'a jamais vécu 5 ans où il n'y a pas des accords qui sont signés dans ce pays. Non.
Merci donc, beaucoup. À mon avis. Merci beaucoup, cher collègue Jack. Allez-y.
Je voulais dire.
Achève ton idée.
Je voulais dire, Tati, il est encore temps. Il est encore temps de dresser la barre. Hein? Il est encore temps de dresser la barre, mais cela va commencer par la réalité. Les autorités qui nous dirigent, les autorités qui gèrent ce pays doivent nous dire la vérité sur tout ce qui se passe dans le pays afin de sauver l'honneur de tous ces Congolais qui souffrent aujourd'hui. J'étais au Burundi récemment, j'ai vu comment les compatriotes souffrent. Je me suis dit non, ça c'est autre chose. Donc, ils doivent nous dire la vérité et tout ce qui se passe dans notre pays, sur la réalité de notre pays et sur les accords qu'ils signent. Ce sont des accords comme ça, demain après demain, et les Congolais commencent à souffrir comme nous vivons aujourd'hui à Kalemie. Nous vivons sous une panique et si Uvira cède, Kalemie directement nous
aura de problème aussi, oui.
Dans la panique totale. Donc, nous invitons les autorités à prendre des décisions et nous dire la vérité sur ce qui se passe au pays. C'est ce qui se passe dans cette république que nous aimons bien, que nous portons bien dans nos cœurs, Tati.
Merci beaucoup Jacques Fouraïcha. Nous rappelons que vous êtes directeur général de la radio Nenga FM, un organe de presse basé à Kalemie. Nous sommes là dans les Tanganyika. Je me tourne vers vous, Magui Libebele. Nous rappelons que vous êtes manager du média en ligne Paramètres RDC et directrice provinciale de l'Union Congolaise des femmes des médias, ICOFEM Tchopo. Comment commentez-vous cette actualité sur les communiqués conjoints entre le gouvernement congolais et les M23 sur l'association des hostilités en RDC?
C'est comme mon prédécesseur, mon conseil qui vient de parler, c'est toujours des questionnements et des questions qui me trottent dans la tête là. Premièrement, moi j'ai dit, ça c'est quel genre de pourparlers dont chacune des parties signe son communiqué à part, mais curieusement, les textes se ressemblent. Vous voyez, nous avons l'habitude ici, quand il y a un pourparler, les belligérants, tous les belligérants signent sur un même document. Mais aussi les médiateurs, mais aussi les médiateurs qui apposent aussi leur signature, si pas aussi les participants.
Exactement, comme témoins.
Il y a beaucoup de questions qui se posent. Oui. Et moi aussi, c'est ce que je venais de dire. C'est pourquoi moi, je me pose la question de savoir pourquoi les belligérants n'ont-ils pas signé sur même et un seul document? Pourquoi les médiateurs n'ont pas apposé leur signature sur la fameuse déclaration? Et en fait, moi, je me pose encore la question de savoir est-ce que ces deux documents sont vrais? Vous voyez? Ou bien c'est un autre format de déclaration conjointe qui nous montre aujourd'hui, peut-être c'est une nouvelle, nous on ne connaît pas, c'est une première, nous on ne connaît pas. Mais pour moi, je trouve que il y a encore une certaine méfiance entre les deux parties. Il y a encore de la méfiance entre les deux parties. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça que ça se fait d'habitude. Et ces gens-là qui ont participé à ces pourparlers, ils ont l'habitude de participer à des pourparlers et ils savent comment ça se passe. Et pendant ce temps, comme le confrère a dit, à Goma, à Bukavu, les gens souffrent. Est-ce que nous allons continuer à continuer comme ça jusqu'à quand? Vous voyez? Parce que si c'était quelque chose qui était de sérieux, on allait voir les témoins, on allait voir les médiateurs, la signature des témoins, la signature des médiateurs, la signature des deux parties sur un seul et un même document. Mais pourquoi ça n'était pas fait? Pourquoi ça n'est pas fait? Voilà, pour moi, je trouve que ça c'est vraiment, c'est aberrant, hein. C'est aberrant, la déclaration qu'on vient nous montrer, l'autre signe par le représentant lui-même et l'autre aussi signe de l'autre côté, et chacun avec son en-tête. Donc, moi, je trouve ça, c'est vraiment aberrant.
Et pourtant, la population pense que c'est vraiment important que les deux parties dialoguent pour enfin arriver à arracher cette paix arracher cette paix surtout dans la région de l'Est où la population est victime de cette situation d'occupation. Merci beaucoup, cher conseiller Magui Libebele. Nous rappelons que vous êtes manager du média en ligne Paramètres RDC, directrice provinciale de l'Union Congolaise des femmes des médias. Média ICOFEM Tchopo. Je me tourne vers vous, cher collègue Yannick Ntombolo. Nous rappelons que vous êtes journaliste codesk politique du média en ligne, élections-net.com. Dites-nous, comment commentez-vous cette actualité qui a défrayé la chronique sur la toile hier soir?
Moi, je rappelle à nos amis, à nos confrères, à mes co-débatteurs que non, c'est un deuxième communiqué. Puisque le tout premier, on était là en train d'attendre un peu le pourparler de Luanda. Et du coup, on a vu deux photos, une photo qui apparaît, l'un, monsieur Kagame et le président de la République. Et on se disait, comment est-ce que c'est une image montée ou bien c'est une image réelle? Et du coup, on a vu que non, c'était une image réelle. Et là, qu'est-ce qu'on attend encore? On voit un communiqué. Et je rappelle d'ailleurs que non, il y avait déjà notre ancien confrère qui est aujourd'hui président du CESAC qui disait que non, une fois que vous voulez parler de la question liée à la sécurité, il faut avoir un spécialiste sur le plateau. Mais écoutez, aujourd'hui, où en sommes-nous? C'est la RTNC qui nous lit un communiqué pondu par le M23.
Alors qu'il y a des restrictions du CESAC qui interdit à ce que les médias puissent publier des communiqués ou des nouvelles concernant les M23.
Vous voyez un peu là, on dit que non, des fois, il ne faut pas mélanger l'émotion et la motion. Et là, on est parti un peu dans un chemin où on ne connaît même pas l'issue. Des fois, moi, je me demande que non, Est-ce que nous sommes réellement conscients? Est-ce que ceux qui nous dirigent, permettez-moi le terme, savons que très bien que non, le président c'est un humain, il sait répondre aux attentes de la population. Mais là, je ne sais pas si réellement on est sur un bon chemin ou soit on est en train de partir vers l'inconnu.
Et parfois, tu sais le fait qu'ils ne sont pas respectés sur le terrain.
Est-ce que depuis quand le M23 a déjà respecté un cessez-le-feu? Et depuis quand le gouvernement peut prendre ce courage-là et nous lire un communiqué d'une milice ou soit des gens qu'on appelle comme étant des terroristes
dans un organe de presse officiel?
Les lire là. Et ce n'est même pas que non. Il fallait même que notre ministre de la Communication puisse un peu faire ce qu'il fait d'habitude là. Et
il invite des journalistes, il fait les points.
Oui, là ça allait passer. Mais prendre un document venant des rebelles et nous brandir ici, là c'est peut-être chier sur, permettez-moi le terme, chier sur les gens, les victimes de la guerre de l'Est.
Oui, mais qu'est-ce que ça vous dit, le fait qu'il y ait des communiqués séparés et puis en même temps on dit que c'est un communiqué conjoint?
C'est là que je dis que non, il y a quelque chose un peu qui se cache quelque part. Il y a quelque chose. Pourquoi? Rappelez-vous que non, c'est la toute première fois qu'il Tshisekedi signe avec le M23. Depuis qu'il est là.
Accepte de négocier.
Oui. Une fois que non, vous parlez déjà avec le M23, que non, voilà, déjà, on signe déjà un communiqué conjoint qui n'est même pas encore authentique. Là, il faut encore se poser la question.
On se pose la question de l'authenticité de ces deux documents.
Bien sûr, bien sûr. Et selon même certaines informations, le communiqué a été produit depuis le 17. Depuis le 17, et il a été rendu public, je crois, le 23, ou bien le 24.
Le 24.
Ouais. C'est depuis le 17, et maintenant, on nous prive, nous, l'information, et nous allons puiser l'information dehors. Vous voyez maintenant? Et une fois que le gouvernement a déjà signé un communiqué, soit un communiqué conjoint, qu'on l'appelle comme ça, un communiqué conjoint, que moi, je pourrais dire que c'est... Bon, je ne peux pas, puisque moi, j'ai mes confrères qui sont là, à l'Est, c'est qu'ils vivent du jour le jour. C'est impossible de les relater ici.
Et à Doha, tout se déroule à huis clos. L'information, on n'a pas accès à la bonne information.
C'est
tout se déroule à huis clos.
C'est
uniquement ces communiqués conjoints qui nous a été
vendu. Et qu'est-ce qui a été dit d'abord avant même de signer ces communiqués? Qu'est-ce que le gouvernement a comme garantie de la part du M23? Rappelez-vous une seule fois, à chaque fois qu'il y avait des cessez-le-feu, le M23 s'est renforcé. Le M23 s'est renforcé en hommes, en munitions. Et maintenant, le gouvernement sait qu'il inquiète, sait que non, c'est de longer toujours, soit de commencer toujours à appeler la communauté internationale à témoigner, appeler ceci. Mais ce qui est vrai est que le gouvernement doit prendre ses responsabilités et non pas plonger le pays dans ce que les gens ne connaissent absolument rien, puisque là, c'est une histoire des vies humaines. Puisque dans ce communiqué-là, apparemment, nous partons directement vers les négociations en ignorant les Rwanda et l'Ouganda. Or, ce sont eux les parrains de ce mouvement rebelle. Donc moi, je crois que non, le gouvernement doit mieux faire pourvu que non, ou soit...
Vous avez raison, parce que le problème, il est aussi régional.
Quand j'ai vu ce communiqué, je me suis dit, ou soit, c'est une stratégie de Kinshasa d'internationaliser cette crise, de dire que non, voilà... On quitte Luanda, on quitte Nairobi, on s'en va maintenant vers Qatar. C'est maintenant d'abord prendre d'abord le M23, le mettre là devant et dire que non, derrière ces gens, il y a le Rwanda et l'Ouganda. Je ne sais pas, ça on nous a pas dit. Mais c'est ce que moi je suis en train de réfléchir. Mais si on entre un peu au fond, on trouve que non, le gouvernement essaie un peu de faire en sorte que non, peut-être de donner une certaine colère ou soit de donner une certaine agitation et frustration aussi dans les partis aussi qui sont affectés par cette guerre-là. Vous voyez, MPC, moi, je trouve comme MP, c'est qu'il y a biaisé. Puisque à chaque fois qu'il y aura dialogue, c'est nous qui serons toujours perdants. Puisque le M23 viendra avec ses négociations et ses revendications et dire que non, voilà, moi, je préfère ceci. Et si le gouvernement ne le fait pas, le M23 va
retourner dans la bourse
toujours.
Et puis, voilà, ça, c'est compliqué parce que la crise aussi, c'est important de négocier, de dialoguer parce que la crise perdure depuis une trentaine d'années, mais ça remonte aux années 90.
Si on dialogue, cher Tati, ça sera pour la quantième fois qu'on dialogue. Et ça sera pour quel
ça doit être un dialogue aussi sincère, c'est ça le problème.
Non, il n'y a jamais un dialogue sincère avec le M23, ça qu'on se le dise. Rappelez-vous, en 2013 avec Kabila, oui, qu'est-ce qu'on a? Ce sont les mêmes têtes maintenant qui sont à la tête du M23. Il y a un dialogue, on prend les autres, on les met à l'écart, et par la suite, on prend de nouvelles figures. Quel est le rôle du mouvement de Nanga? Quel est son rôle? Le M23 est en train d'utiliser ses propres manières. par ses propres parrains. Ils ont vu que non, l'M23 est déjà considéré comme étant un mouvement rwandais, comme Kinshasa l'appelle. Alors on crée AFC, AFC qui est composé beaucoup plus de Congolais, mais qui n'a même pas de militaires.
On les remet en avant-plan.
Eux maintenant sont considérés comme étant les autorités politiques. Et maintenant, ceux qui s'occupent de tuer et faire tout ce qui est comme massacre, c'est l'M23. Et là, on va dire que non, non, ce sont les Congolais. Et
c'est une affaire à l'interne.
Entre Congolais, voilà. Et voilà pourquoi il y a eu l'afflux beaucoup plus d'adhérents, de politiques, de hauts cadres même, qui sont au sein de l'AFC. Et c'est l'AFC qui signe beaucoup plus les communiqués, et le M23 fait comme si un relais. Moi, je crois que non, on devrait être un peu beaucoup plus lucide et ne pas céder beaucoup plus à ces manipulations. Moi, je crois que non, ça, c'est juste une façon aussi de faire endormir les gens. Et moi, je suis sûr et certain que non, ça ne tiendra absolument à rien.
Merci beaucoup, cher collègue Yannick, Serge Yannick Ntombolo. Nous rappelons que vous êtes journaliste au desk politique du média en ligne, election-net.com. Merci également à vous tous d'avoir analysé ces thèmes, ces rapportant à la publication du communiqué conjoint du gouvernement congolais et les M23 sur le cessez-le-feu et les dialogues à Doha, la capitale du Qatar. Alors, le deuxième et le dernier thème de ce soir, se rapporte aux poursuites judiciaires contre l'ancien président Joseph Kabila, qui est accusé de soutenir les groupes rebelles M23FC impliqués dans des actions armées dans l'est de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a ordonné des poursuites pour haute trahison et la saisie des biens de Kabila. Et de son côté, le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Tchabani, a annoncé la suspension des activités du PPRD sur tout le territoire national. Comment commentez-vous cette actualité? Nous commençons par vous, Jack Fouraïcha. Nous rappelons que vous êtes directeur général de la radio Nenga FM, un organe de presse basé à Kalemie, dans la province du Tanganyika. On vous donne la parole, Jack.
Bon, merci beaucoup, Tassi, pour ce deuxième sujet. Je t'appelle ça sujet de la soirée. En fait, j'avais parcouru les deux communiqués, les communiqués du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, les communiqués du VPM de l'Intérieur, suspendant notamment le PPRD, les activités du PPRD sur l'étendue du territoire national, et les communiqués du ministre de la Justice, donc donnant injonction à l'auditeur général de FARDC et à la Cour de cassation de poursuivre Joseph Kabila, l'ancien président de la République, sénateur à vie. Mais on s'est dit, dans ce pays, il y a un problème. Il y a un problème. Le ministre, la Constitution donne cette occasion au ministre de signer par arrêté, de donner les injonctions par arrêté, mais une désolation quand on va lire un communiqué qui va suspendre toutes les activités d'un parti politique dans toute une république. C'est après qu'on a vu l'arrêté, quand il y a eu beaucoup de commentaires sur la décision du ministre. Ce qui est vrai, c'est déplorable, et on s'est dit, mais pourquoi de telles décisions? On va suspendre le PPRD et poursuivre Kabila. Pourquoi? Oh, il a été à Goma. Est-ce que réellement Kabila est arrivé à Goma? On a appris par des réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut se baser aux spéculations des réseaux sociaux et prendre directement une décision? Moi, je ne crois pas. Le drame du Congo, Tati, ne commence pas avec ce qu'on appelle aujourd'hui Kabila parrain des rebelles M23, mais aujourd'hui on négocie avec eux, donc on négocie avec Kabila. Le vrai drame du Congo, la situation que nous vivons aujourd'hui, les Congolais les savent bien, la trahison originelle, si vous analysez bien des élections de 2018. L'opposition a beaucoup alerté, la Cinco en a parlé, qu'il y aurait des accords signés dans l'ombre. en 2018 et sur cette situation ici qui met aujourd'hui les pays dans tout ce que nous sommes en train de vivre. C'est cette situation, c'est ces accords-là que nous, on ne connaît pas, nous, Congolais.
Des accords qui sont restés secrets. Oui.
Oui, les accords secrets que nous, on ne connaît pas, que nous, on les connaît, les tenants et les aboutissants qui nous introduisent aujourd'hui dans cette situation que moi j'appelle une situation médiocre dont le peuple congolais est en train de vivre aujourd'hui. En 2018, on s'était tous mobilisés. Moi, j'ai même passé nuit au centre parce que je devais voter tous les matins pour les changements, pour un Congo émergent, pour une justice restaurée, une justice équitable. Mais on est arrivé par assister aux accords, des accords qui aujourd'hui nous amènent dans une situation dont nos frères certains se retrouvent aujourd'hui en Ouganda, les autres se retrouvent aujourd'hui au Burundi, les autres au Rwanda en train de souffrir pour rien. Le PPRD, le parti à Joseph Kabila, j'ai vu juste après, le vendredi même, quand le ministre avait signé son communiqué, j'ai vu un cadre, j'ai suivi un cadre.
Ferdinand Kambere notamment.
Ferdinand Kambere, une chaîne qui dit non. Ce sont des rumeurs, hein, ce sont des spéculations, ce sont des rumeurs. Qui a vu Kabila à Goma? Est-ce que parce qu'on a vu Kabila à Goma, il faut directement suspendre le texte? Bon, ça dépend. Mais nous devons demander, toujours demander et demander les accords signés dans l'ombre. Qu'est-ce que disent ces accords? Qu'est-ce qui nous introduisent aujourd'hui dans ce qu'on ne voulait pas? Écoutez, nous, on ne vit pas de la politique. Mais néanmoins, tout ce qu'on gagne dans la communauté, tout ce qu'on gagne, le fait qu'on gagne, nous vivons de ça. Et si on a seulement une paix durable qui nous permet d'aller et rentrer à la maison en paix, voyager par véhicule, quitter par exemple Kalemi jusqu'à Lubumbashi en paix et rentrer, c'est pour nous un plaisir, ça fait du bien. L'histoire, l'histoire, Tati, l'histoire retiendra que c'est, à mon avis, c'est pas un homme armé dans la brousse qui a plongé aujourd'hui les pays dans l'abîme.
Et en même temps aussi, c'est très étonnant. Je pense que c'est pour la première fois au monde qu'une personnalité qui a été à la tête d'une institution d'appui à la démocratie, la CENI, d'aller en rébellion, c'est très étonnant.
Oui, c'est ce que je voulais dire. Parce que lui-même, l'ancien président de la CENI, le président actuel, Nekordo, hein, comme on l'appelle, Kordo de AFC, lui-même, qui a dirigé la CENI en 2018, lui-même connaît ce que la population congolaise a voté en 2018. Donc, il doit savoir, il connaît la réalité de ces accords signés à l'ombre. Moi, je pense qu'il devrait le dire. Il devrait le dire au peuple congolais afin que la population... nous sommes bien sûr de souffrants, mais qu'on sache réellement, non, dans ces accords, il y a ceci, dans ces accords, il y a ceci, il y a tel qui n'a pas respecté, tel qui n'a pas respecté, et tel qui a respecté, et voilà pourquoi nous arrivons à cette situation.
Oui, mais de toutes les façons, chers collègues, ces accords, qu'est-ce que le peuple a à voir avec? Le peuple est allé voter, il a fait son choix, c'est tout.
Oui, le peuple a fait son choix, le peuple a voté dans l'espoir d'un changement, d'une justice restaurée, et d'un état fort et émergent. Mais malheureusement, la réalité que nous vivons aujourd'hui, c'est pas ce vote, c'est pas le peuple congolais. Je voulais finir ce que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'ils ont choisi le mensonge pour tromper le peuple congolais. Ceux qui sont dans la rébellion, ceux qui sont au pouvoir, ils ont choisi le mensonge, ils ont trompé le peuple congolais, ils ont choisi l'égoïsme et la trahison, ils ont trahi le pays, ils ont trahi le peuple congolais.
Oui, c'est le vocable qu'il faut employer, c'est vraiment la trahison. Merci beaucoup, Jacques Fouraïcha. Nous rappelons que vous êtes directeur général de la radio Nenga FM, un organe de presse basé à Kalemi, dans la province de Tanganyika. On vous regarde en ligne, je me tourne vers vous. Cher consoeur Magui Libébélé, nous rappelons que vous êtes manager du média en ligne, paramètre RDC, directrice provinciale de l'Union congolaise des femmes des médias, Ikofem Tchopo. Comment commentez-vous cette actualité?
Merci beaucoup, Taki. Moi, c'est toujours des questions que je me pose. Qu'est-ce qui gêne le gouvernement en place? Est-ce que c'est la localisation de l'ex-président ou les liens présumés entre la personne de Joseph Kabila et la rébellion du M23-AFC? Ça, c'est la question que je me pose d'abord. Et puis, pourquoi ça intervient quelques jours après la soi-disant déclaration conjointe? Vous voyez, alors que de l'autre côté, le gouvernement prône officiellement les dialogues,
l'ouverture du dialogue,
et l'escalade des violences de notre pays. Vous voyez?
Oui.
Moi, je pense que nous avons une justice dans notre pays. Si on trouve que la personne de l'ex-président de la République ou le sénateur à vie a commis des actes allant à la contre de la loi, on envoie l'invitation à quelqu'un pour qu'il vienne répondre. Vous voyez? Ah bon. Je pense que le gouvernement en place a des preuves, hein, a des preuves pour qu'il arrive à faire ce qu'il est en train de faire là. Et mais de l'autre côté, si je me pose la question, Tati, pourquoi le silence de Joseph Kabila sur ce sujet? Pourquoi aussi le silence de ses camarades du parti PPRD? Pourquoi il ne s'exprime pas dans les médias à ce sujet-là?
Ferdinand Kambere s'est exprimé.
De l'autre côté, nous ne savons pas.
Cher consoeur, qui c'est? Oui. Ferdinand Kambere, qui est le cadre de ce parti, il s'est exprimé pour dire que Kabila n'a pas foulé ses pieds dans la ville de Goma. Il l'a dit au lendemain de la diffusion de cette nouvelle. Mais est-il qu'il y a des sources qui se recoupent, qui disent qu'il était de passage à Goma?
Tati, vous connaissez le PPRD. Ce n'est pas une seule personne ou une seule personnalité qui doit s'exprimer. Ceux qui sont en province peuvent parler et tout. Mais nous, personnellement, je me pose la question pourquoi ce silence-là. Et de l'autre côté, il faut savoir aussi que le sénateur à vie, c'est un leader politique. À sa manière, il peut aller là-bas pour rencontrer des personnalités telles que Nanga et les autres qui ont œuvré dans les PPRD pour essayer de parler avec les afin de cesser aussi les atrocités.
Oui, mais si tel est le cas, pourquoi nier les faits?
Je ne sais pas pourquoi ça gêne. Peut-être il y a Langou sous roche, nous ne connaissons pas. Vous voyez? Mais je dirais ceci, si aujourd'hui Joseph Kabila est le seul sénateur à vie, demain nous aurons aussi deux et ainsi de suite. Il est très important qu'aujourd'hui on ne puisse pas créer une classe d'individus intouchables, même au niveau des sommets du pays. Vous savez, il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'on est en train de créer une classe d'individus au sommet de notre pays qui seront des intouchables, vous voyez, et au nom de l'immunité officielle, on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les punir. Non, la justice doit s'appliquer à tous et sans distinction. Que ce soit les anciens dirigeants et que ce soit les anciens dirigeants à tous les niveaux. Hein. Moi, je ne parle pas seulement du sénateur à vie, à tous les niveaux, même dans des petites entités, à tous les niveaux, ne doivent pas seulement bénéficier d'une protection éternelle. Donc la justice doit s'appliquer d'une manière distincte à tout le monde. Et c'est là que je fais allusion aux questions de l'équité, de la responsabilité des dirigeants et de la justice en notre pays. Voilà, Tati, ce que je pouvais dire par rapport à cette situation de poursuite du sénateur à vie et des de la suspension de son parti PPRD.
Merci beaucoup, cher conseiller Magui Libébélé. Nous rappelons que vous êtes manager du média en ligne, paramètre RDC, directrice provinciale de l'Union congolaise des femmes des médias, ICOFEM Tchopo. On vous garde en ligne. Je me tourne vers vous, Serge Yannick Ntombolo. Nous rappelons que vous êtes journaliste au desk politique du média en ligne, élections-net.com. Comment analysez-vous, comment commentez-vous cette nouvelle, cher collègue?
Cher Tati, vous savez, il y a 2 ou 3 ans, dire que non, Kabila sera arrêté, c'était probablement impossible. Mais aujourd'hui, là, on essaie un peu de voir que non.
Le décor, il est en train de se planter apparemment.
Bien entendu. Mm. Et maintenant, sur la présence au nom de Joseph Kabila, je vais répondre d'abord à madame, notre conseillère de Kisangani. Mm.
Magui Libébélé.
Vous savez, il y a le cadre du PPRD, c'est qui encore le nom?
Ferdinand Kambéré,
qui est maintenant sollicité beaucoup plus par les médias et des fois beaucoup plus communiqué.
Il est beaucoup plus coopératif, au fait.
Bien sûr, mais quand on communique beaucoup, on risque aussi de tomber aussi dans les erreurs. Mm. Il a été reçu, je crois, par une radio, dans une radio là, il a dit non, Joseph Kabila peut rentrer au Congo partout où il veut. Quand Kabila avait annoncé que non, il serait ici au Congo.
C'est d'abord une ou deux semaines avant, il va s'intégrer dans la partie orientale.
Oui, non, la veille, mm. le samedi, je cite même la source, c'était la radio Top Congo, mm. où il a dit non, Kabila est ici à Goma. Il est à Goma et il peut être là et personne ne peut l'inquiéter. Et quelques jours après, il s'est rébiffé pour dire non, Kabila n'est pas ici au Congo. C'est un peu ça le risque du métier. Quand on communique beaucoup plus, on doit savoir sur quoi on communique. Et maintenant, la présence de Kabila d'abord, il est au Congo ou il n'est pas au Congo? C'est un peu ça.
On parle de Windhoek, on parle de la Namibie, on dit qu'il était au Rwanda.
C'est un peu ça la grande question.
Ben est-ce que c'est pas une question de repositionnement? Parce que comme les négociations ont commencé, est-ce que c'est pas une stratégie politique également?
Moi, j'essaie un peu de comparer ça avec comme étant un ballon d'essai. Donc Kabila essaie un peu de voir que non, est-ce que je suis populaire, soit est-ce que les gens essaient un peu de me suivre, est-ce que mon poids politique datant, est-ce que j'en ai encore? Donc c'est ce qui essaie un peu de se faire, puisque à l'instant là, on n'a même pas une précision ou soit une localisation pour se trouver où se trouve Joseph Kabila. Et après avoir rendu public cette annonce là que non, Joseph Kabila est à Goma, et il y a quelques médias étrangers qui disent que non, ils ont contacté Rwanda, le Rwanda dit que non, il n'est pas à Goma, il est sur son sol. Et là, on était un peu en train de naviguer à vue, on ne savait pas que non, si Kabila est ici ou bien Kabila est ailleurs. Et du coup, ce qui m'étonne, c'est d'abord la précipitation de notre gouvernement. On ne sait pas si on agit encore une fois de plus sur base de l'émotion. Suspendre son parti politique, oui, ça moi j'appuie.
Le fait de se retrouver dans les territoires occupés, dans une zone non contrôlée par le gouvernement, pour un sénateur à vie, c'est pas aussi loyal.
Non, Kabila fait du mal.
Au regard de son rang, le fait de se retrouver dans une zone occupée, il y a suspicion.
Vous savez, nous avons parlé d'un premier sujet ici qui était capital, c'était pour l'avenir du pays, puisqu'à l'Est, il y a l'insécurité là. Mm. C'est lui qui devrait jouer le rôle du médiateur, c'est Joseph Kabila.
Et il faut le faire en cachette?
Il devrait le faire si que non, il était loyal. Mais là, Kabila est sorti de son silence et j'ai des conseils même qu'il puisse même enlever tous ceux qui sont tout autour de lui. Son silence parlé. Le silence de Kabila, même si on le critiquait, on injurait, Kabila, on sentait quand même que non, voilà, c'est qu'il a reconnu quelque chose, mais il ne veut pas répondre. Ou soit, quelqu'un parle de mal contre lui, Kabila ne répond même pas. Mais là, Kabila est sorti dans son silence et directement, il est tombé dans une bourde là et du coup, on essaie un peu de voir maintenant la vraie phrase de Kabila. Et c'est là maintenant qu'il vient confirmer que non, Joseph Tshisekedi avait raison de dire que non. Le vrai leader du mouvement AFC, c'est Joseph Kabila. Puisqu'à l'instant là, on voit maintenant que non, Kabila se prépare pour rentrer. Maintenant, il se prépare comment? Quand je disais que non, le gouvernement se précipite. Je reviens sur ça. Il y a le ministre de l'Intérieur qui a dit non, le PPRD ne doit plus fonctionner. Ça, il a raison, puisque beaucoup plus de cadres du PPRD sont dans l'AFC.
Exactement.
Et maintenant, comment est-ce que le lendemain, le ministre de la Justice s'en va directement pour dire que non, et voilà, la parcelle d'ailleurs même qu'occupait le PPRD, son ancien parti, doit être déguerpie. Mais moi, je crois que non, ça, c'est un acharnement. On peut dire ça. Je peux essayer un peu de me contredire, mais je peux être bref pour dire que non, Joseph Kabila doit encore une fois de plus se rattraper. Est-ce que doit-on faire de la justice un état de droit ou soit de la justice comme étant un instrument de vengeance?
non.
Vous avez répondu. Et moi, ce que moi je pense, c'est que non, ce qui est vrai, et que Joseph Kabila doit encore une fois de plus revenir dans son bon sens et jouer ce rôle-là. Nous devons célébrer Joseph Kabila, puisque c'est lui qui a fait en sorte que non, nous puissions être aujourd'hui dans cette étape d'un premier président à vie.
Et la voie la plus loyale d'accéder au pouvoir, c'est par les billets des élections.
Non, il ne peut pas revenir. Comment il peut encore revenir?
Je dis, la voie la plus loyale, ce sont les élections.
Bien sûr, voilà, voilà. Même s'il ne veut pas être encore aux affaires, il peut déléguer Sadar, il peut déléguer les autres, mais continuer maintenant à servir le pays derrière les Rwandais, soit les ennemis. Moi, je trouve que non, c'est un mauvais pas. Et là, d'une part, le gouvernement doit aussi saisir aussi une occasion, peut-être la meilleure. Mmh. Pas en se précipitant avec les communiqués, et on ne sait même pas qui fait quoi. Qu'est fait le procureur de la Cour de cassation, le procureur de la Cour constitutionnelle? Et ce sont les ministres maintenant qui prennent le dessus et pour commencer maintenant à le faire. Moi, je crois que non, ce n'est pas une bonne démarche.
Merci à vous tous. Hein. Merci à vous tous d'avoir analysé ce deuxième sujet concernant les poursuites judiciaires contre les sénateurs à vie Joseph Kabila, ainsi que la suspension des activités de son parti politique, le PPRD, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et nous profitons également de l'occasion pour remercier vous, chers collègues, qui avez pris part à ces rendez-vous. Vous, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous espérons que c'est pas la dernière fois que nous puissions vous inviter dans ces rendez-vous.
Merci beaucoup, chers confrères.
Merci à vous tous.
Merci à vous également. C'est par ici que s'achève ce numéro de la Tribune de la Presse. Tati Mapoukou, c'est moi qui l'ai présenté. Kéline Koute s'est occupé de la coordination de ces numéros. Martin Seboudjang l'a supervisé. Alain et Debs Vita étaient à la prise des sons. Les rendez-vous est pris pour le week-end prochain. Excellent week-end et bonne suite des programmes sur Radio Capi.